Jean Boffret. Toutes les questions de Heidegger finiront par converger, dites-vous, dans la mise en question de la technique. Cette œuvre apparaît de plus en plus comme un questionnement radical sur le destin des temps modernes. Quel a été ce que Heidegger appelle lui-même son chemin de pensée?
La première étape sur ce chemin est le livre paru en 1927, plus exactement en février 1927, sous le titre « Sein und Zeit, être et temps ». C'est le livre qui fait passer Heidegger de la clandestinité universitaire à quelque chose comme une célébrité qui va avoir tendance à devenir internationale. Ce livre est un livre surprenant parce que ceux qui le lisent ne savent pas bien par quel bout le prendre, et moi-même, je me suis longtemps demandé de quoi il s'agissait au juste. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Heidegger était l'auteur d'un livre qui s'appelait « L'être et le temps », et je pensais que quand nous nous verrions, c'est du temps qu'il allait me parler. Or, ce n'est pas du temps qu'il m'a parlé, c'était de l'être et de l'être dans son opposition à l'étant. Il faudrait donc admettre que « Sein und Zeit », l'être et le temps, soit la figure sous laquelle apparaissent pour la première fois à Heidegger la différence et la participation de être et étant. Par conséquent, il en résulterait que « Sein und Zeit » serait le livre de la différence de l'être et de l'étant. Ce qui est caractéristique, c'est que ce mot de différence que Heidegger emploie très souvent, en réalité, ne figure pas thématiquement dans son premier livre notoire, à savoir « L'être et le temps », mais que la locution de différence ontologique, entendant par là « différence ayant trait à la distinction d'être et des temps », cette locution de différence ontologique n'apparaît dans son enseignement que dans les mois qui suivent la publication de Sein und Zeit, c'est-à-dire dans le cours qu'il fait à l'université de Marbourg, où il est alors professeur, au cours du semestre d'été, Sein und Zeit ayant paru au mois de février. Alors on peut bien dire que Sein und Zeit est le livre de la différence de l'être et de l'étant, mais de telle sorte que le mot de différence n'intervienne pas encore au premier plan.
Pourquoi fallait-il à ce point souligner cette différence? Est-ce qu'elle était oubliée? Est-ce qu'elle n'était pas connue? La différence entre l'être et l'étant. Pourquoi Heidegger a-t-il été amené à souligner cette différence et quelle importance cela peut-il donc avoir?
Heidegger a coutume de dire que la différence de l'être et de l'étant est déjà faite partout où il y a philosophie ou métaphysique, mais qu'elle n'est nulle part pensée comme telle. Et on commence à apercevoir, de ce point de vue, que le temps, dans le titre « Être et temps », sera le nom que va prendre la différence de l'être et de l'étant tel qu'il s'efforce de la porter au langage, comme il aime dire.
Pourquoi était-il essentiel, selon Heidegger, de distinguer et de mieux distinguer l'être de l'étant?
Parce que la différence de l'être et de l'étant est, pour Heidegger, l'élément sous-jacent et, pour ainsi dire, agissant de la philosophie d'un bout à l'autre de son histoire, sans que cette distinction ou cette différence ait jamais été comme telle portée au langage. Il y a bien toutes sortes de précédents, mais aucun n'est décisif. Par exemple, dans un dialogue de Platon qu'on appelle Hippias majeur. La question est celle du beau. Platon demande à Hippias de répondre à la question « Qu'est-ce que le beau ?» ou « Qu'est-ce qui est beau ?» Et la réponse de Hippias, qui n'est pas un philosophe, est tout simplement, par exemple, une belle fille. Platon lui demande alors, mais entre la question « qu'est-ce qui est beau ?» et « qu'est-ce que le beau ?» ne vois-tu pas de différence ? La réponse de Hippias est « il n'y en a aucune » ou « d'endiaferei ». Par conséquent, on voit bien sur le vif la menace de l'être par l'étant dans la mesure où l'interlocuteur de Platon ne peut pas apercevoir une différence là où Platon fait au contraire essentiellement une différence. Seulement ce n'est pas de l'être qu'il s'agit, c'est du beau. La question n'est pas qu'est-ce qui est plus beau qu'autre chose, puisque Hippias finit par dire au fond ce qu'il y a de mieux c'est encore l'or, parce que la belle fille avec de l'or on peut la voir. Et Platon rit à ce moment. Or la question de Platon c'est pas qu'est-ce qui est beau, mais qu'est-ce que beau ? Et alors nous revenons à la question, non pas qu'est-ce qui est, mais qu'est-ce qu'est être ?
Mais avant Platon, est-ce que Héraclite ou Parménide ont saisi cette différence entre l'être et l'étant ?
Ils l'ont en tout cas saisi davantage encore que Platon ou qu'Aristote, dans la mesure où la phrase la plus insolite du poème de Parménide est « esti gar einai », qu'on peut traduire, si l'on peut le traduire, par « il est en vérité être ». Mais lorsque une phrase commence par « il est », on attend tout de suite la désignation de ce qui est. « Il est, sur ma montagne, une épaisse bruyère où les pas du chasseur ont peine à se plonger », dit Alfred de Vigny, par exemple. Mais faire suivre « il est » de la nomination de l'être, c'est le comble de l'insolite. C'est lui qui est être. Alors, par conséquent, la différence de l'être est bien vue par Parménide, plus encore qu'elle n'est vue par Platon et par Aristote. Tout le poème de Parménide est axé sur être.
Donc, au commencement de la philosophie, comme dit Heidegger à son matin le plus matinal, deux penseurs grecs que nous connaissons ont, en questionnant, saisi d'une certaine manière cette différence qui va être à l'origine de toute la philosophie occidentale et déterminer dans une certaine mesure la pensée au cours des 2500 ans qui vont suivre.
Telle est bien l'interprétation de la philosophie par Heidegger. Lorsqu'il dit que la question fondamentale de la philosophie est la question de l'être. Mais avant lui, personne ne l'avait dit. C'est-à-dire, on peut dire que selon Heidegger, la philosophie est une tentative plus que bimillénaire de répondre, ou plutôt de correspondre à une question qui n'a été nulle part encore posée, qui est celle que pose Heidegger. Mais avant lui, la question n'était pas posée. C'est ambiguement que cette question transparaît d'un bout à l'autre de la philosophie grecque. Par exemple, dans la philosophie d'Aristote, la question est bien « tito on », « quoi étant ?»« Quoi l'étant ?» Mais la réponse peut être à volonté « étant », c'est ce qu'il y a dans l'étant de plus étant. Par exemple, Toteion, le divin qui est plus étant que ce qui est simplement naturel ou simplement humain, et d'autre part, tout un aspect demeuré anonyme de la philosophie d'Aristote est plutôt un effort pour répondre à la question qu'est-ce que être de l'étang ? Qu'est-ce qu'être pour l'étang ? Et c'est là qu'interviennent des réponses aussi surprenantes que catégorie ou que energeia. Une catégorie, c'est pas une chose comme une assiette ou une fourchette. Une catégorie, c'est la dénomination même de l'être dans l'étang. Et alors, par conséquent, Aristote va jusque-là, il distingue être de l'étang, et en même temps, il confond être avec ce qu'il y a de plus étang dans l'étang. Ça avait été aperçu jusque-là, mais personne n'avait réussi à comprendre qu'il en allait ainsi, parce que la question fondamentale est la question de l'être, et que le propre de l'être est d'être le plus intimement menacé par l'étang.
Dans Zen und Zeit, Heidegger dit qu'il questionne sur le sens de l'être, puis il dira sur la vérité de l'être. Enfin, semble-t-il mécontent des termes précédents, il finira par faire un choix et parler de topologie de l'être, de lieu de l'être, de contrée de l'être. C'est cela, l'itinéraire.
Mais on peut dire déjà que Zen und Zeit est d'un bout à l'autre une topologie de l'être. Être, il y a partout où il y a temps, et là seulement. Par conséquent, le topos de l'être, la topologie de l'être, c'est le temps, ce qui va obliger à entendre le temps d'une autre oreille que ceux qui ne voient que le phénomène bien connu et analysé par Aristote de la succession.
La démarche de Heidegger dans Zen und Zeit n'est qu'une étape sur l'itinéraire. On a distingué entre le révérend père Richardson, un Heidegger 1 et un Heidegger 2, qui est en quelque sorte la suite du premier. Que s'est-il passé de Zen und Zeit jusqu'aux dernières démarches de Heidegger?
Heidegger, à qui je posais la question un jour, m'avait dit « On parle de moi comme si on avait l'air de me reprocher de n'avoir pas répété la même chose depuis Zen und Zeit jusqu'à l'époque où nous en sommes. Je pense que rien n'aurait été plus fastidieux que de faire la monnaie de Zen und Zeit pendant 40 ans. Et il est évident qu'un autre Heidegger est apparu au moins aux yeux des lecteurs. Mais il ne s'agit pas d'un Heidegger 1 et d'un Heidegger 2, selon la locution inventée par Richardson, qui serait aussi différent qu'Henri Ier Beauclair et Henri II Plantagenet, qui sont deux individus tout à fait différents. C'est bien du même Heidegger qu'il s'agit. Mais alors que se passe-t-il ? Est-il donc mécontent de son livre de 1927, à savoir Zen und Zeit? C'est peut-être trop dire, il n'en est pas mécontent, mais il creuse la problématique qui avait abouti à la publication de ce livre. Et c'est le creusement de la même problématique qui amène en surface la distinction possible de plusieurs étapes dans l'œuvre de Heidegger. Il ne faut pas imaginer que tout est contemporain dans la pensée de Heidegger. Il s'agit d'un chemin qui s'invente lui-même au fur et à mesure qu'il avance. Eh bien, la première étape, qui a lieu dans les 3 ans qui suivent Zen und Zeit, Et certainement, la conférence qu'il fait pour la première fois à Brême en 1930, sous le titre de l'essence de la vérité.
Le livre de Heidegger, L'être et le temps, paraît donc en 1927. Aujourd'hui, même les adversaires de Heidegger reconnaissent qu'il fait date dans l'histoire de la philosophie. Qu'apporte donc ce livre, L'être et le temps?
Le livre, L'être et le temps, fait apparaître l'être dans sa distinction d'avec les temps sous l'horizon du temps, comme on peut le lire dès l'avant-propos qui ouvre le livre Être et temps. Mais le livre souffre, pour ainsi dire, ou souffre, il ne souffre pas, il est marqué par une restriction initiale. Et cette restriction initiale, c'est que d'un bout à l'autre, le livre Être et temps va avoir pour thème ce que Heidegger appelle l'analytique du Dasein. Il s'agit donc du mot Dasein. Ce mot Dasein est en apparence un terme tout à fait classique tiré de la langue allemande. Il est employé par Kant en particulier comme terme proprement germanique répondant au latin existentia ou au français existence. Par exemple, existence de Dieu se dit Dasein Gottes. Heidegger va employer le mot de Dasein en un tout autre sens, et si on veut le traduire en français, on ne peut guère le traduire que par l'étrange locution « être le là ».
Dasein, est-ce l'homme ou l'ouverture qui caractérise l'homme?
C'est à la fois l'homme et l'ouverture qui caractérisent l'homme, l'homme n'étant caractérisé que par cette ouverture. Il y a une très grande analogie en un sens entre l'apparition du Dasein dans Sein und Zeit et la position centrale de l'ego cogito, du « je pense » dans la philosophie cartésienne, Descartes, qui cherche à s'informer sur ce qui est, se consulte auprès du « je pense ». Par conséquent, il est certain que le Dasein de Heidegger est du même côté que le « je pense » de Descartes. La différence entre le Dasein au sens de Heidegger et le « je pense » de Descartes, c'est que le « je pense » de Descartes, armé de son « intuitus », comme dit Descartes, toise devant lui la chose comme objet, tandis que le Dasein s'éclate, pour ainsi dire, là où sont du même coup les choses. Autre chose quand même est d'attirer ce dont on parle, à savoir les choses dans son collimateur, autre chose est de s'ouvrir à la présence même des choses. Et ce que Heidegger nomme Dasein signifie que ces choses dont je parle sont telles par rapport à moi que rien ne m'en sépare à la manière d'une cloison ou d'un écran. Par exemple, la fenêtre qui est là, nous la voyons tous, elle apparaît comme fenêtre, bien que chacun ne la voit que par ses yeux à lui et que personne ne peut voir la fenêtre avec les yeux d'un autre, mais ça n'empêche pas la fenêtre d'apparaître comme fenêtre. De même, quand nous regardons la lune, il n'y a qu'une lune qui brille au milieu du ciel, bien que chacun ne puisse la voir qu'avec ses yeux. Tandis que pour Descartes, il n'y avait pas une lune au milieu du ciel, il y avait autant de lunes qu'il y avait de « je pense ».